pour vous prêcher sur l'Épître aux Romains. Voilà, Romains chapitre 1, verset 1. On va prendre juste le verset 1 et puis on va étudier cela. Vous êtes Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Amen. Cet Épître aux Romains a changé tout simplement l'histoire. En 386 de notre ère, un homme du nom de Aurelius Augustin, si je vous dis Saint-Augustin, ça vous dit plus, il enseignait la rhétorique dans une école du nord de l'Italie. Selon son propre témoignage, il menait une vie de débauche, d'orgie sexuelle, de beuverie, une vie immorale au possible. Sa mère, Monica, priait pour son salut. Elle priait pour lui parce qu'elle savait que son fils était perdu. Il était dans la débauche, mais bien plus, son cœur était très éloigné de Dieu. Un jour, plongé dans la réflexion, il était assis à l'extérieur de sa maison. Il entendit des enfants qui jouaient. Et voilà, une des phrases qu'il répétait était « Prends et lis !»« Prends et lis !» Ce n'est pas « Élie, hein, l'homme », c'est « Prends, lis !» Voilà, c'est ça, ça voulait dire ça. Hein. Alors qu'il entendait ces mots, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est rentré dans sa maison. Il y avait avec lui quelqu'un qui, lui, était attiré par le christianisme. Il était cet homme attiré par le christianisme. Alors, il a pris l'Épître aux Romains, il l'a ouvert, il l'a lu dans Romains chapitre 13, versets 13 et 14. Hein, écoutez un petit peu ce qu'il a lu. Et vous allez comparer à la vie de cet homme, hein, de Augustin. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quand il a dû entendre ça, ça a dû, excusez-moi, mais le coacher sur place. Et il a dû être scotché là, waouh, en disant, waouh, il est interpellé. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous touche, quand une parole vous est destinée directement, vous pouvez boucher les oreilles, hein. Mais c'est dans le cœur, c'est là, ça a frappé. Et ça a fait, comment on dit? Ça a fait tilt ou ça a fait mouche. Paf. Et oui, ça a toujours où il fallait. Alors ce jeune homme qui vivait dans une vie de péché a soudain fait demi-tour, un demi-tour complet. Et Augustin est devenu un des premiers théologiens de l'Église chrétienne. C'est Saint Augustin. On le cite quelquefois en prédication. Hein. À peu près 1200 ans plus tard, un moine catholique, professeur de théologie dans l'université de Wittenberg en Allemagne, son nom c'était Martin Luther. Ça vous dit Luther? Eh oui. Il lisait l'Épître aux Romains. Et par cette étude, il a compris qu'on n'arrive pas au ciel en prenant des sacrements, ni en achetant des indulgences auprès de l'Église. Alors il était convaincu que le salut, lui, c'est par grâce, par le moyen de la foi. C'est ce qui l'a convaincu. Il a annoncé les 95 déclarations par lesquelles il croyait. Elles furent appelées les 95 thèses. Il les a cloués sur la porte des bâtiments de l'université de Wittenberg. De là est née la réforme protestante. Ensuite, le 27 mai 1738, John Wesley, ça vous dit quelque chose? Eh oui. Il s'est converti en allant à une réunion à Londres. Et le passage qui était commenté ce soir-là était tiré de l'Épître aux Romains. Vous voyez un petit peu? Alors, Augustin, Martin Luther, John Wesley ont non seulement fait l'expérience d'une vie qui va être transformée de manière positive, décisive, mais également, ils vont servir, eux, à la transformation d'autres vies. Parce que ça a été des leaders après. Alors, on va parcourir ensemble, et voir un peu le parcours d'un vrai chrétien. À quoi ressemble votre CV? Électricien, maçon, professeur. C'est votre CV, ça? Sur le plan spirituel? Je crois qu'il y a autre chose à mettre dessus. Hein. Alors, nous avons dans la simple phrase que nous avons lue, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile. Ça, c'est un CV. Alors, avez-vous un CV spirituel Et s'il y a, oui, eh bien, qui a-t-il écrit sur votre CV? D'ailleurs, avez-vous un parcours spirituel? Si ce n'est pas le cas, il vous faut vous engager avec Jésus, lui donner votre vie, lui donner toute votre vie et le suivre. Marcher en obéissant à sa parole. Eh oui, c'est important. Alors, dans ces mots de Paul, nous avons les trois caractéristiques d'un vrai chrétien. Nous allons un petit peu les examiner. Première caractéristique, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a été transformé par Jésus. Il n'a pas été un peu amélioré. On a travaillé sur son caractère. Il a travaillé sur son caractère. Il est devenu meilleur. Il n'était pas honnête. Oh, on lui en a mis. Il a compris la correction. Il a fait quelques temps de prison et depuis, il a compris. C'est pas ça un chrétien. Un chrétien, il est transformé. Amen. Et ce changement se trouve dans cette phrase de l'apôtre Paul. Vous dites peut-être où est-ce qu'elle est cette phrase, ou voyez-vous un changement dans cette phrase d'introduction, eh bien de l'apôtre Paul. C'est dans son nom. Dans son nom, Paul. Paul n'est pas le nom qu'on lui a donné à la naissance. Quand il est né, il a été appelé Saul, Saül Saul. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Voilà qu'un jour, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tel changement dans sa vie qu'il fut appelé Paul. Mais en attendant, il s'appelait ça Saul. Et Saul, eh bien, c'est le nom du premier roi d'Israël. Il est dit dans 1 Samuel chapitre 9, verset 2, « Il y avait un fils du nom de Saül, jeune homme, jeune et beau, pardon, plus qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Il avait une stature impressionnante. D'ailleurs, on ne voyait que lui. Il était beau, mais en plus, il était costaud, il était grand. Alors, quand Saul de Tarse s'est converti, lui qui portait le même nom que le premier roi d'Israël, il s'est senti tellement indigne d'une telle grâce, car il avait, lui, on le sait, persécuté les disciples de Christ, l'Église des premiers siècles, et qu'il a voulu changer son nom. Il ne pouvait pas rester Saul, Saül. Donc il ne voulait plus s'appeler comme cela. Et le nom de celui qui les dépassait tous de la tête, il ne le voulait pas, mais il va s'appeler Paul. Et Paul, ça signifie quoi? Le petit. Le petit. Voilà. Alors, il existe quelques détails du second siècle, c'est-à-dire des années 100, une description de Paul qui est donnée. Et sans aucun doute, quelqu'un qui l'a bien connu, étant enfant, et qui raconte que Paul était de petite taille. Il ne pouvait pas être un géant s'il était petit, petit était petit. Hein, voilà ce que je veux dire. Bon. Alors voilà trois domaines également par lesquels il a changé. Premièrement, au départ, il avait une religion formaliste. Après, il a rencontré Jésus, il s'est mis à le suivre. Alléluia, il faut faire ça. Hein, si vous ne le suivez pas, suivez-le. Au départ, pour lui, c'était une religion. Après, pour lui, ça a été une relation. Une relation avec son Sauveur. Avant d'être chrétien, il était très religieux, la preuve, il était zélé pour sa religion. Un religieux, c'est quelqu'un qui pratique des rites, des cérémonies. Écoutez, on n'a pas besoin de plus de religion. Est-ce que nous avons la personne vivante de Jésus, ça nous suffit. Alors, vous voyez ce que produisent les religions, pour n'en citer quelques-unes. Hein. En Irlande, ça vous dit quelque chose, Irlande? Moi, j'ai connu un gars qui était dans, justement, le truc irlandais, hein, les catholiques et les protestants. Ce gars-là, il voulait me tuer. Il s'appelle David. Parce qu'il est toujours vivant, il dit s'appelle. Hein. Peut-être qu'il est plus vivant, je ne sais plus, ça fait longtemps. Hein. Mais en tout cas, il me l'a dit un jour, il m'a dit, j'avais envie de t'en mettre deux, de me lever, de venir te cogner au pupitre. Et oui, je disais des choses qui le dérangeaient. Ça le concernait. Et comme il ne voulait pas changer, et bien, pour faire taire quelqu'un, il faut le faire taire. Hein. Voilà. Alors, il y a également les Bosniaques et les Serbes. On sait ce que ça a produit dans les Balkans. Alors, le seul qui peut justement nous amener au ciel, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, c'est le Sauveur. Et le seul qui peut changer notre vie. Et l'expérience de Paul est là, une rencontre personnelle avec Jésus, et sa vie est transformée. Eh oui, Un religieux, c'est quelqu'un qui met des habits le dimanche, il se fait magnifique, il est beau, voilà, il est beau. Il va à l'office et il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. Hein ? Oui, il n'aime pas rencontrer le Seigneur, il fait ses devoirs, voilà. Après, il dit, je n'ai pas juré, je n'ai pas fumé, je n'ai pas bu, je suis un religieux. Alléluia. Puis il s'en va, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il retourne à sa vie normale. Normal. Quand ils sont à l'office, bien sûr, ils ne font aucun mal. Je dirais d'ailleurs que certainement, il n'y a que là. Il n'y a que là qui font aucun mal. Deuxièmement, au départ, une vie de coupable. Après, eh bien, la grâce l'a purifié. J'étais coupable. J'ai été justifié. J'ai été purifié, lavé mes péchés. Alors, de toutes ses forces, Paul essayait de pratiquer la loi. Ça, c'était avant. Hey, c'était fait le défenseur de la loi. Il faut que j'abatte, il faut que je détruise. Hey, c'était l'Éphésienne, ces paroles de Jérémie. Voilà. Alors, c'est quoi ? Faites ceci, ne faites pas cela. Eh oui, il dira lui-même, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Tu l'as loupé. Romains 7, 19. Voilà. Tu te rattrapes. Allez. Donc, il vivait, lui, sous le poids de la culpabilité. Et là, il découvre que le salut, c'est un don gratuit. Oh pétard, c'est beau, hein ? Ben oui, c'est beau, hein ? Alors écoutez ce qu'il dira lui-même. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché... Vous avez vu, le péché réclame un salaire. Oui, un salaire qui est associé au péché. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors ce n'est pas ce que tu fais, ce qui te fait gagner le ciel, mais c'est finalement ce que Dieu lui-même a fait. Et il n'a eu besoin de personne pour le faire. Il a décidé de lui-même et il s'est mis en route et il a fait ce qu'il fallait. Alors vous ne pouvez pas faire en sorte que Dieu vous aime plus. Pourquoi ? Parce qu'il vous aime déjà sans condition. Vous avez remarqué l'amour lui-même ? Je t'aime. Si, je t'aimerai toujours si. Il y a des conditions. Hein ? Mais lui, il n'y a pas de conditions. Quand nous, on le déteste, qu'on lève la main contre lui, que le poing contre lui, pardon, la main, c'est pas trop dangereux, mais le poing, c'est plus expressif, contre lui, il lui dit, tu peux faire ça, moi je t'aime quand même. Ça fait réfléchir un peu. Eh oui. C'est ça, hein, il nous aime sans condition. Alors quand Paul a découvert que Dieu l'aimait tel qu'il était, et que Jésus justement était mort pour le pardonner, pour lui pardonner ses péchés, alors Paul est passé de la culpabilité à la grâce. Amen. Il a compris, il a été justifié sur le bois de la croix. Jésus est mort pour lui, maintenant c'est fini. Il ne veut plus vivre comme il vivait avant, avec ce marteau, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ou ce marteau au-dessus de la tête. Si je pêche, je suis mort. Non, il disait, maintenant c'est fini. Je suis sauvé par grâce, je n'ai rien fait de plus. J'ai été pardonné parce que je me suis repenti. J'ai rencontré Jésus. Amen. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Et à partir de là, il dit, mais non, ma vie n'est plus la même. Amen. Et quand vous découvrez justement, eh bien, ce qu'est la grâce en réalité, elle produit en nous, et c'est ça, elle produit en nous comme un éveil spirituel. Un éveil spirituel. Moi, j'ai pleuré sur mon péché. J'ai pleuré quand j'ai découvert que Jésus était mort à cause de moi, que j'avais participé finalement, puisque le pasteur qui prêchait de cela, sur cela disait, mais vous avez tous participé, toi aussi tu es participant, toi aussi tu as participé à la mort de Jésus sur la croix, même s'il y a plus de 2000 ans, mais tu y étais. Pourquoi ? Parce qu'on est tous pécheurs. Tous pécheurs, tous privés de la grâce de Dieu. Puis voilà qu'il nous a justifiés pour que nous, on ait part à la grâce de Dieu. Troisième chose, c'est qu'au départ, c'est la haine. Après, c'est l'amour. C'est beau, hein ? Vous voulez être aimé ? Soyez remplis de l'amour de Dieu, communiquez-le. Et on va vous aimer, vous allez voir. Alors après avoir été l'homme qui haïssait les chrétiens, voilà qu'il est radicalement transformé au point d'aimer les chrétiens maintenant. C'est pas beau ? Ben oui, il les aime. Hein ? Dans le livre des Actes, nous trouvons Étienne, le premier martyr chrétien, qui dit devant ses accusateurs, « Vous avez crucifié le Saint et le Juste, mais Dieu l'a ressuscité. » Et ça, écoutez, au lieu d'amollir un petit peu leur cœur, non, ça les met dans une colère, ça déclenche une colère chez eux. Ils ont voulu être terribles avec lui, ils l'ont été d'ailleurs. Hein. Il y avait là un jeune homme, qui s'appelle Saul de Tarse. Hein, c'est de lui qu'on parlait. Il a voté également pour qu'à coup de pierre, Étienne soit tué, lapidé. Mais on le tue, paf, on fait disparaître. Il dit des choses qui nous dérangent. En plus, ils nous accusent. Voyez un petit peu. Et ça ne leur plaisait pas, bien sûr. Eux, c'est la noblesse. Ah oui, oui, oui. Alors, il a été témoin de la mort d'Étienne jusqu'à ce que celui-ci pousse son dernier cri, un dernier souffle, et l'a entendu dire Étienne ceci. Seigneur Jésus, pardonne-leur. Ils sont en train de me tuer, mais pardonne-leur, Seigneur. Ne leur impute pas ce péché. Alors je suis convaincu que Saul, qui va devenir Paul, a été étonné d'entendre de telles paroles de clémence envers ses meurtriers. Alors, pour faire taire la voix de sa conscience, qu'est-ce qu'il fait, Saul de Tarse? Eh bien, il est devenu encore plus violent. Dans sa haine contre les chrétiens, il a été encore plus brutal. Il a demandé des lettres de créance, justement, ou des lettres de recommandation pour aller à Damas et pour s'exprimer et ramener tous ceux qui étaient partis, qui avaient pris la fuite. Pour lui, c'était prendre la fuite, alors qu'ils étaient allés propager la bonne nouvelle. Parce que c'est ça, un chrétien. Eh oui, il ne s'arrête pas. Eh oui, donc... Il a fait ce qu'il devait faire. Hein. La Bible dit, il respirait la menace et le meurtre. Et c'est alors que, en chemin, sur le chemin de Damas, Jésus apparaît à Saul de Tarse et lui dit, Saul, moi j'ai un chair de poule, hein. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est aveugle, il est aveuglé en plus parce que il a été terrassé par cela. Imaginez-vous un peu, vous entendez ça, Saul, votre nom. Et personne, vous n'y voyez plus. Il y a deux soldats à côté de vous qui sont au courant de rien. Et là, vous entendez, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Oh, Saul est brisé. Il est gagné par la grâce de Dieu. Parce que le Dieu savait ce qu'il allait faire. Dieu savait, puisque c'était son intention d'aller, et il avait ses lettres de recommandation des principaux chefs religieux. Donc c'était avec une intention particulière, celle de faire souffrir, d'arrêter, même de tuer. Parce qu'il respirait le meurtre, la menace et le meurtre. Et là, il a été gagné par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Vous vous rendez compte? Il n'a pas eu 10 000 prédications. Il a eu sa prédication, elle est simple. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bon, c'est pas dit comme ça, hein. Mais vous comprenez. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, Saul, il est convaincu de péché. Il est né de nouveau. Puisqu'il le dit, Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Il est sauvé. Le salut était instantané. Mais ensuite, eh bien, il faut avancer. C'est ce que je disais dimanche. Il faut se lever et avancer. Et il faut faire des progrès dans le domaine du salut. Oui. Alors, Saul devient chrétien. Formidable. Il va à Jérusalem vers ceux qu'il persécutait. Il leur dit, je suis devenu chrétien. Bon, je n'ai pas l'ictus sur moi, mais il est dans mon cœur. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis chrétien maintenant. Je vous aime. Bon, certains vont y aller tout doucement, hein, avec précaution, parce que la Bible dit bien, et il faut être prudent comme le serpent, on ne sait pas. Hein. Quand on est sage, c'est ça. Donc voilà. Alors, je pense que chacun d'entre nous, cet après-midi, est passé par cette expérience qui a transformé notre vie. Nous n'avons pas adhéré au mouvement des assemblées de Dieu, nous n'avons pas adhéré à une religion nouvelle, mais nous avons été transformés. Et à partir de là, est-ce que vous suivez un chemin? Le chemin qui ensuite eh bien, va vous amener tout simplement à vivre pour Jésus. Parce que c'est ça. Paul disait, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour le Seigneur. Amen. Il a changé votre vie. Gloire à Dieu. Deuxième caractéristique. Un vrai chrétien, C'est paradoxal, vous allez voir ce que je dis. Il est maintenant dans les chaînes. Oh pétard, qu'est-ce qu'il veut dire là? Eh bien oui, il est enchaîné à Jésus. D'accord? Les autres chaînes sont tombées, hein? Bien sûr, on a remplacé par celle-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est soumis. Mais soumis de cœur. Vous voyez, ce n'est pas soumis avec la peur, la terreur de faire un pas de côté. Non, pas du tout. Il est soumis de cœur. Paul, il dit, je suis serviteur. En grec, Paul, c'est esclave. Esclave, hein? Pourquoi Paul était-il enchaîné à Jésus? Dans 2 Corinthiens 2,14, Paul dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous amène dans son cortège triomphal. » Voilà. Dans son cortège triomphal. Quand un général roumain revenait vainqueur, on organisait toujours à Rome un cortège triomphal. C'est-à-dire que le vainqueur, sur son char, avec ses étalons magnifiques, envoyait devant lui tout simplement un coureur, il allait à Rome et il a annoncé « Demain, nous aurons une parade de la victoire. Notre général rentre en vainqueur. L'ennemi est vaincu. » Eh oui. Alors la foule se rassemblait. À la tête du cortège était le général vainqueur. Il montait sur un char magnifique, tiré par des chevaux blancs magnifiques, hein, des étalons. Et enchaîné à son char, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait tous les officiers de l'armée vaincue, ce qui est encore vivant. Hein. Voilà. Alors, c'est ce que Paul dit finalement. Jésus, c'est le général en chef. Jésus, c'est le général en chef. C'est le vainqueur. Et moi, je suis enchaîné à son char. Je suis son esclave. Amen. Il est devenu esclave de Jésus-Christ. Alors, est-ce que votre volonté lutte contre celle de Jésus? C'est possible. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Parce qu'un jour, il faut que ça craque. Il faut que vous vous laissiez vaincre par Jésus. Et pour cela, bien, il faut lui demander pardon, il faut lui demander de vous aider à ne plus résister. Et vous, puisque vous aurez adressé cette prière à Jésus, « Seigneur, aide-moi à ne plus te résister, maintenant vous êtes responsable devant lui, puisque vous avez fait cette prière, vous ne devez plus résister. » C'est comme ça que ça marche. Eh oui. Paul dit, c'est comme il le dit lui-même, pardon, « Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse ?» C'est plus « Seigneur, je vais. » « Accompagne-moi, Seigneur, parce que je... » Non, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est différent. Troisième caractéristique, et j'arrive à la fin, un vrai chrétien est appelé par Jésus à servir. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte ? Paul, esclave, appelé à être apôtre. Quand vous êtes appelé à être quelqu'un. Quelqu'un. Une certaine personne. On vous appelle par votre nom. On ne vous dit pas, et toi là-bas? Peut-être une fois vous allez vous retourner, ensuite vous allez dire, non, je ne me retourne plus. J'ai un nom. D'accord? Mes parents m'ont donné un nom. Nous avons maintenant un nom nouveau. Amen. Donc à partir de là, vous êtes quelqu'un, une certaine personne. Alors pour Paul, c'était tout simplement être apôtre. Pour vous, c'est certainement différent. Une chose est certaine, c'est que Dieu a prévu pour vous une place au sein de son Église. Amen. La chaise 145. Non. Ni la 143 d'ailleurs, hein. Ni la première, là, ou je ne sais pas, c'est là la première? Par où on commence? Je ne sais pas, en fait. Hein. Mais non. Quand je dis qu'il a prévu une place pour nous dans son Église, c'est-à-dire qu'il a prévu pour nous que nous fassions quelque chose pour lui. Pas simplement occuper une place. Et imaginez qu'on n'ait plus de place et qu'il faille rester debout. Il n'y aura plus de chaise. C'est ce qui s'est passé. Vous demanderez à notre sœur roumaine. Eh bien, en Roumanie, c'est ce qui s'est passé. Hein. Un pasteur nous avait visité il y a quelques années et il disait, mais on n'a plus de chaise, mais on n'a plus de place. On ne peut plus, voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a les mêmes normes de sécurité qu'en France, parce qu'en France, nous, on est particuliers. On est toujours les donneurs de leçons. D'accord ? Nous, quand c'est plein, on ferme la porte. On dit aux autres, hop, trop tard. Venez une autre fois. Non. Si ça nous arrive, on ouvrira les portes bien grandes. On dira aux gens, restez. Allez, poche-toi. Poche-toi, on va trouver une place devant, là. Devant, devant, justement. Mais non, mais je ne veux pas me faire voir. Devant, devant, c'est bien, ça sera ta place, là. Vous voyez ? Eh oui, mais c'est... On fait comme on peut, hein. On fait comme on peut, avec un temps de réveil. Ben c'est comme ça, hein. Eh oui. Alors, vous êtes appelé à quelque chose dans le corps de Christ. Être un disciple. Dans le mot disciple, il y a élève. Nous sommes élèves de qui ? Qui c'est notre professeur ? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui, le grand général en chef. Eh oui, oui, être un témoin de Jésus. Amen. Qui tu es, toi ? Je suis témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a qui vont dire, oh là 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 là, lui, hein, il y a un problème. Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Eh oui. Alors non seulement vous êtes appelé à être, mais aussi à faire. À faire au nom du Seigneur. Chaque église est appelée à partager la bonne nouvelle. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Ah, ça veut dire que je vais faire quoi ? Ben, racontez ce qui vous est arrivé. Pour être court, vous pouvez dire, j'étais perdu, je suis sauvé. Oh, c'est vraiment court, là. Hein. Bon, il faudra mettre des détails un petit peu. Hein. Bon, il y a des choses qui sont personnelles, il faut les garder pour soi. Hein. Vous voyez ? Mais il y a des choses qu'il faut dire. Faut donner soif. Hein. Amen. Il faut donner soif. Un petit peu de sel. Ça donne soif, le sel, hein ? Non ? Un petit peu de sel, tac, ça donne soif, alléluia. Viens, viens te désaltérer à la maison du Seigneur, viens, viens, viens. Tu verras, tu vas te faire du bien. Et c'est ça, avec le Seigneur, c'est ça. Alors voyez un petit peu, ça c'est la carrière du chrétien, hein, j'ai nommé mon message comme ça, la carrière du chrétien. Peut-être que j'irai un peu plus loin avec vous. Je crois que mardi prochain, c'est encore moi. On ira, on évoluera un petit peu. D'accord ? Voilà, on va prier ensemble, vous voulez bien ? Hein, j'ai dit que je ne serai pas long, je ne suis pas long. Voilà. Alors, des sujets de prière. Moi, j'ai deux demandes, trois demandes que je les retrouve